Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées de quelques minutes sur Radion. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Dernier numéro de l'année 2019 avec aujourd'hui la diffusion de la conférence donnée par Jean Lacoste, germaniste et philosophe, à l'occasion du centenaire de la parution de Colabrugnon, roman de Romain Rolland. Cette conférence de Jean Lacoste a été enregistrée au Cinéma d'Avallon le 16 décembre 2019 et s'inscrivait dans le cadre des commémorations organisées à Vézelay et à Clamecy durant cette année autour du centenaire de la parution de ce roman gay de Romain Rolland, prix Nobel de littérature 1915, Colabrugnon. Je rappelle que Jean Lacoste, je vous l'ai dit, germaniste, essayiste, agrégé de philosophie, il a établi l'édition du journal de Vézelay 1938-1944 de Romain Rolland, paru aux éditions Bartilla en 2012. Je rappellerai aussi que Romain Rolland est né à Clamecy en 1866 et il est mort à Vézelay le 30 décembre 1944, il y a donc maintenant 75 ans. Romain Rolland a obtenu le prix Nobel de littérature en 1915, des éléments biographiques qui ne me semblent pas négligeables, avant de vous proposer tout de suite la conférence donnée par Jean Lacoste et qui vous est proposée dans son intégralité dans Wagon Livre, l'émission littéraire de Radio. Sans plus tarder, Jean Lacoste à notre micro.
Nous avons à Clamecy, dans la Nièvre, je précise pour ceux qui ne connaîtraient pas, célébrer les 100 ans de la publication de Colabrugnon de Romain Rolland. La ville de Clamecy peut en effet s'enorgueillir d'avoir fourni le cadre, l'ambiance, le décor de deux œuvres qu'il ne faut pas confondre, mais qui sont marquées par un même esprit de gaieté sans malice, par un esprit frondeur mais sans excès, un esprit picaresque, bon vivant, bon buveur, grave par endroits, mais toujours composé de joyauderies et de farceurs. Il s'agit évidemment, là je mets une petite carte de Clamecy pour ceux qui pourraient s'égarer, il s'agit évidemment de Claude Tillier, mon oncle Benjamin, qui a été publié en 1843 et qui est toujours étonnamment présent dans le cœur des Clamecycois de façon très, très vivante et populaire. Et puis, Colabrugnon, qui relève en apparence un peu du même esprit et qui a été publié, lui, en 1919, il y a 100 ans, donc, dans des circonstances particulières sur lesquelles je reviendrai. Alors, la première des œuvres, c'est-à-dire mon oncle Benjamin, demeure bien connue parce qu'elle a bénéficié d'une traduction cinématographique toujours extrêmement populaire. Évidemment, bien entendu, mon oncle Benjamin, le film, qui est ce qu'il est, mais qui est dans lequel le protagoniste, le héros, a été incarné par l'inoubliable Jacques Brel, il y a 50 ans. Peut-être comme pour vous, comme pour moi, j'ai été un peu troublé d'apprendre que le Benjamin de Jacques Brel avait 50 ans. Et il demeure toujours présent. Or, une question s'est posée à nous, quand je dis nous, c'est l'association Romain Rolland et d'autres personnes, c'est comment marquer cet anniversaire de Colabrugnon, ce centenaire, par un film, ici, au Ciné-Club d'Avallon, alors qu'il n'y a pas, hélas, d'adaptation cinématographique de Colabrugnon, contrairement à mon oncle Benjamin. Il n'y a pas d'adaptation cinématographique, et la question qui s'est posée, avec M. Barbaro, c'est évidemment, est-ce qu'il y aurait un film qui pourrait avoir des affinités assez évidentes avec Colabrugnon ? Le Colabrugnon qui n'a été incarné par personne et qui pourrait peut-être être incarné, je ne sais pas, par Depardieu, pourquoi pas, hein, grand buveur lui aussi, Et c'est pour cela dit, pour marquer la potentialité énorme de la figure de Colabrugno. Tout le monde a vu, effectivement, dans ses souvenirs d'enfance, même mon oncle Benjamin a chevauché avec Jacques Brel et bu des pots avec le docteur Mingsik, mais pour Colabrugno, il faut lire le texte, comme le lire même à haute voix, comme cela vient d'être fait avec, je crois, beaucoup de talent et de conviction. La lecture seule, plus ou moins, donne accès à l'univers de Colabrugno qui vient d'être esquissé avec les premières pages du livre. Il y a des illustrations, bien sûr, comme celle de ce Théo van Helsen, dont Romain Rolland a eu connaissance tout à fait à la fin de sa vie, dont je n'ai pas trouvé d'exemple convaincant sur les moyens de recherche habituels, et de toute façon, à propos duquel Romain Rolland disait « Je ne crois pas qu'Helsen convienne parfaitement à mon cola. Il n'en ressent pas la bonne humeur, la joie sans aucun fond d'amertume. Cela écrit en novembre 1944. Il a, dit Romain Rolland, un grand style dans le réalisme à fond tragique. Et pour lui, c'est une mauvaise lecture de Colabrugno, parce que Colabrugno, pour lui, c'est essentiellement un roman gay. Je veux dire, gay, joyeux. C'est ce qu'il a voulu, ce thème du roman gay reviendra sans cesse dans les quelques propos que je vais rassembler. Pourtant, les circonstances de la publication et de l'écriture faisaient attendre autre chose qu'un roman gay. En 1913, Rolland vient d'achever une œuvre majeure à laquelle il a travaillé pendant une dizaine d'années, disons de 1902 à 1912, et qui va lui valoir plus tard le prix Nobel, c'est évidemment Jean-Christophe, l'histoire d'un musicien allemand qui s'est inspiré par la vie de Beethoven en particulier, et donc une œuvre tellement célèbre qu'elle a donné des livres de lecture pour les classes élémentaires de la République. Après avoir cette œuvre monumentale et prenante, et après avoir eu le sentiment d'être vampirisé par le personnage de Jean-Christophe, Romain Rolland respire au sens strict et physique du terme, et il se trouve en Suisse, et il commence à écrire ce Colabrugno sous la dictée de ses aïeux, dit-il, dans une langue un peu artificielle, comme on l'a entendu, mais très recherchée, très travaillée, et qui doit beaucoup à tout un passé de la langue française, Rabelais, Montaigne, La Fontaine aussi. Il va de soi que ce projet de roman gay trouble tous ses amis qui étaient plutôt habitués à voir en lui une figure de mentor, de sage, un homme fondamentalement sérieux, l'incarnation de la rectitude morale et esthétique, du sérieux prompt d'ailleurs à critiquer la foire sur la place du monde intellectuel parisien. Et pourtant, voilà ce qu'il écrit au printemps 1913. Il écrit donc un journal fictif d'un artisan de Clamecy et il se confie dans un avertissement au lecteur de mai 1914. J'ai senti un besoin invincible, c'est sous le dicté des aïeux, de libre gaieté gauloise, oui, jusqu'à l'irrévérence. En même temps, un retour au sol natal. Que je n'avais pas vu depuis ma jeunesse, m'a fait reprendre contact avec ma terre de Bourgogne nivernaise, a réveillé en moi un passé que je croyais endormi pour toujours, tous les Colabrugnons que je porte en ma peau. Il m'a fallu parler pour eux. Donc là, il ne s'agit plus d'un écrivain qui a un projet, mais quasiment d'une sorte d'intermédiaire qui laisse parler les ancêtres et les aïeux en lui. Seulement, l'œuvre est à peine achevée en 1914, elle est imprimée, quasiment prête à être distribuée par l'éditeur Ollendorf. La guerre éclate, évidemment. Et il faut attendre parce que les circonstances ne sont guère propices à un roman gay, comme dit Romain Rolland. Et donc ce n'est qu'en 1919, après un long moment de latence, que Romain Rolland peut songer à publier cette œuvre sans la modifier. Mais dans un contexte tout à fait différent, qui est marqué évidemment par son engagement pacifiste, enfin pour dire les choses globalement et en simplifiant. Après la guerre, la réception de l'œuvre est évidemment assez contrastée. On applaudit de confiance à gauche parce que Colas est un homme du peuple, fondamentalement, qui travaille de ses mains, tandis que dans un journal conservateur comme Le Temps, Paul Soudet, le grand critique de l'époque, ironise sur le retour à la terre des ancêtres, sur la conversion de Romain Rolland à une forme de pensée à la Barrès. C'est vrai qu'à droite, on n'oublie pas et on ne pardonne pas le pacifisme d'au-dessus de la mêlée. Mais les lecteurs de bonne foi sont quand même perplexes. Les uns sont séduits par la sagesse, l'humour, dont on a eu quelques exemples, le souci d'indépendance, l'ironie. Les autres, disons-le, sont irrités par le langage artificiel, irrités, et dans le goût rabelaisien, le pastiche Renaissance. Et réaction assez intéressante qui vous viendra peut-être à l'esprit, c'est que les féministes, comme Louise Baudin, dans une publication qui s'appelle « La voix des femmes », reprochent amicalement, mais reprochent à Rolland, la manière dont il traite les personnages féminins. Je lis ces trois phrases qui sont prises d'un article très long et très, très brillant. « Vous avez sur la femme les idées grivoises et gauloises de tous les Gaulois de la Gaule qui se sont esbaudis en facétie et en paillardise. Pourvu qu'elle ait soit de reins solides, de jambes lestes et de propos salés, c'est à peu près tout ce que vous lui demandez. » Alors, l'œuvre que l'on voit ici, justement illustrée par Gabriel Belot, certainement la plus inspirée des illustrations, est difficile à définir. Est-ce un roman historique ? Les allusions historiques sont là, mais très peu nombreuses, se comptent sur les doigts d'une main. C'est une sorte de poème en prose, avec des alexandrins un peu cachés partout. Ça se sent à la lecture, on ne sait pas, on sent qu'il y a un rythme un peu comme ça de demi-alexandrin. Mais fondamentalement, donc, c'est le journal d'un homme de 50 ans, au temps de la minorité de Louis XIII, quelques années après l'assassinat d'Henri IV, en 1610, comme tout le monde sait, au moment de la régence de Marie de Médicis. On ne sait pas, 1616, dit Rolland, mais il y a une allusion à l'assassinat de Concini, le favori, en 1617.
Conférence de Jean Lacoste, donnée le 16 décembre 2019 au cinéma d'Avallon, autour du centenaire de l'apparition de Colas Brugnon, roman gay de Romain Rolland. Une conférence que nous vous proposons aujourd'hui dans son intégralité dans Wagon Livre, votre émission littéraire sur Radion. La suite, après la pause musicale que nous vous proposons, et je vous rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à midi. Bay Parkway Wonder, you're such a success. Awesome.
Christmas you want.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
La suite de la conférence de Jean Lacoste donnée le 16 décembre 2019 au cinéma d'Avallon, une conférence qui avait pour thème le centenaire de la parution du roman de Romain Rolland, Colla Brugnon, Jean Lacoste.
Mais surtout, l'œuvre se sert dans un cadre temporel beaucoup plus intime, plus précis, qui est celui d'un calendrier. C'était un des projets de titre de Romain Rolland. C'est-à-dire que mois après mois, Colla Brugnon déroule une année de la vie d'un homme entre la Chandeleur, le 2 février, et l'Épiphanie, c'est-à-dire le début de janvier de l'année suivante. Alors cela, ça a été très bien dit dans les textes qui ont été lus. Colla, c'est un personnage truculent, toujours gai, très apte au bonheur par la modestie de ses besoins, mais qui aime bien dresser la liste, c'est ce qu'on a entendu, des biens qui lui appartiennent, y compris sa famille. C'est une sorte de patriarche, on a bien vu la chose. Et sur ce patriarche vont s'abattre toutes sortes de malheurs, parce qu'on a beau être dans un roman gay, toutes sortes de malheurs, comme on pense naturellement à Job sur son fumier, à qui Dieu envoie une succession d'épreuves pour éprouver, justement, pour mesurer, pardon, la solidité de sa foi. Colla, c'est un propriétaire, on l'a dit. Il a un métier d'artisan, menuisier, ébéniste, mais artiste aussi. Il a fait le voyage à Mantoue, en Italie. Il possède une maison à Clamcy. Il a une femme, même si elle est acariâtre. Il a une famille, ses enfants, fils. Et il a surtout, là c'était une sculpture de Brève par Robert Pouillot, un artiste de la région. Il y a sa petite fille, Glody, pour laquelle il a évidemment la plus grande affection et à qui il raconte au début du livre le conte de l'alouette qui annonce le retour du printemps. Charmante entrée en matière. Mais dans le décompte des mois, mi-février, les gens de Vézelay, toujours un peu belliqueux, viennent faire le siège de Clamcy pour une raison qui n'est pas dite et qui apparaît d'autant plus absurde, une querelle religieuse sûrement. Et la fière cité derrière ses remparts résiste pendant un siège. Cette guerre picrocolline, évidemment, est totalement absurde, se conclut par un banquet qui est naturellement rablaisien et paillard. La paix est rétablie, nous sommes prime avril, c'est-à-dire début d'avril. Colla va rendre visite à son ami le curé de Brève, Chamaille, avec un notaire de d'Ornecy, un village de la région. Et la conversation porte sur la religion, les superstitions, les hannetons qui dévorent les légumes. Au chapitre 4, Colla, au lieu de travailler, flâne avec ses apprentis dans le Clamcy des flotteurs du faubourg de Bethléem. C'est une belle journée de printemps qui mêle oisiveté et éloge du travail, mais qui s'achève pour un roman gay sur un enterrement. Vient le... j'ai négligé de vous donner le curé Chamaille. L'illustrateur s'est donné... ça, c'était l'édition de poche, naguère assez facilement disponible, devenue une rareté. C'est le souvenir de la belette de Belette. C'est l'épisode central du livre, d'une certaine manière. Colla y retrouve par hasard un amour de jeunesse. Il se remémore avec elle... certaines occasions lors de laquelle il fut trop timide et qu'il regrette. Il eût été bien accueilli pourtant, et il a des regrets poignants de ce bonheur manqué. Il y avait une allusion dans le texte qui a été lu. Et il s'endort au pied d'un arbre, et au matin, au chant des oiseaux, très belle page, très réussie, il se réconcilie avec la nature et la vie dans un très beau panthéisme poétique, si vous voulez. L'illustration est assez sotte ici parce que tout chez Colabrognon, on a vraiment l'impression d'un jeune homme conquérant, alors que tout le sel de la scène, de l'épisode, c'est justement la trop grande timidité de Colabrognon. Enfin bon. Des oiseaux de passage, en voilà d'autres, château danois. Ce sont soit des nobles dont on se moque gentiment en agitant la question de l'artiste et de l'artisan. Le chapitre fait ainsi la transition entre la description d'un certain bonheur et les épreuves qui attendent Cola. Et bien, intervient un changement brusque dans le livre, puisque dans les premiers jours de juillet, toujours le calendrier, la peste se déclare. Nous voilà plus près de Camus que de Rabelais. Et Cola lui-même est atteint, il se réfugie dans sa vigne, dans un couta, un flanc de colline, dans une cabane à l'écart de tout contact humain, et finit par surmonter la maladie. Cependant, sa femme, qui s'était réfugiée à la campagne, meurt malgré tout, c'est le chapitre « La mort de la vieille ». C'est un moment de tendresse, en fait, dans une poignante et ultime réconciliation, tardive mais effective, et qui est compensée par la guérison un peu miraculeuse de Claudie, la petite fille, atteinte par le croup, cette terrible maladie qui étouffe les enfants, et qui avait tué une petite sœur de Romain Roman lui-même. C'est assez touchant de le voir sauver la petite fille dans la littérature, faute d'avoir pu la sauver autrement. Mais alors, on a brûlé, à cause de la peste, les maisons infectées à Clamcy, y compris celle de Collard, qui était évoquée dans les lectures, avec les œuvres qui étaient entreposées. Et Cola découvre que celles qu'il avait réalisées pour le château de Clamcy ont été elles-mêmes massacrées par un propriétaire fou. Désespoir. Il ne reste qu'une petite statue de Marie-Madeleine, sauvée par un des apprentis. Pendant ce temps-là, avec l'épidémie de peste, la structure sociale s'est désagrégée. Très intéressante page de Romain Rolland là-dessus, d'ailleurs, sur l'effondrement de la société. Quand je parlais de Camus, sur l'effondrement de la société face à un événement comme une épidémie. Les autorités légitimes lâchement laissent faire les pillards, c'est l'émeute, et la nuit, Colabrognon prend la tête d'un groupe de bons citoyens contre les pillards. C'est une guerre civile pour défendre le bien et l'ordre, les biens et l'ordre, dans laquelle les flotteurs, avec leur chef, le roi de Calabre, jouent un rôle ambigu. Colabrognon met le feu à une grange remplie d'émeutiers, véritable massacre. On est loin du roman gay ici. L'ordre est rétabli le lendemain. Silence règne sur cet épisode sanglant, avec mauvaise conscience. La population en profite pour faire la nique au duc, c'est-à-dire comme se pose la question d'un terrain à un pré le long du Beuvron dont la propriété est contestée, le duc de Nevers la revendiquait alors qu'il est depuis longtemps fréquenté par les habitants de la ville en vertu d'un droit ancestral. Et les Clamcicois, jamais dépourvus de malice, trouve le moyen de recouvrer un instant ce droit par un hommage ironique au duc, une statue du duc sur un âne. Cola tente de reconstruire seul et sans argent sa maison brûlée, mais il tombe de l'échafaudage, fracture. Il ne peut plus vivre seul, il est forcé de vivre chez sa fille, c'est la maison des autres. Il aime bien sa fille Martine, il l'a bien dit, mais il déplore la perte de son indépendance, posant ainsi les questions de l'autonomie. En fait. Sa seule distraction, la lecture de Plutarque dans la traduction de Jacques Amyot, l'érudit d'Auxerre. Il rêve aux empires lointains, aux vies des hommes illustres de la Rome, de Rome et de Grèce. Dernière scène de l'Épiphanie, le jour des rois, en janvier, intitulée « Le roi boit », avec une sagesse politique assez ambiguë. Cola est libertaire, mais sans être révolutionnaire. Que dit-il ? Qu'ai-je à faire d'un roi du ciel ou de la terre ? Je n'ai besoin d'un trône, ici-bas ni là-haut. Chaque Français est roi, et bonhomme est maître chez soi. Avec cette revendication d'indépendance, d'individualisme à l'excès, la boucle est bouclée, l'année est écoulée, et le message politique et moral est assez ambigu. Mais ce n'est pas celui de Roman lui-même. On est plus proche ici d'Alain et des citoyens contre les pouvoirs plutôt que de la révolution russe. Vous avez remarqué que la richesse des thèmes qui sont abordés chapitre après chapitre, le folklore, la guerre dans son absurdité, la religion entre doute et superstition, le travail des mains et l'art, la peste et l'épidémie, la violence latente dans la société, l'humour, le rire, malgré tout, la douleur, l'imagination, la lecture, la sexualité, la famille, on n'en finirait pas. Autant de thèmes évoqués dans l'horizon un peu restreint de Clamcy et des alentours, mais qui présentent une sorte de sagesse de notre temps. Même si l'œuvre demeure un peu une énigme, et à tel point que Romain Rolland éprouve le besoin d'ajouter des commentaires à son œuvre pour préciser son intention.
Merci d'être avec nous en cette fin de matinée sur Radion à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire pour la diffusion de la conférence donnée par le germaniste et agrégé de philosophie Jean Lacoste autour du centenaire de la parution de Colabrenion, roman de Romain Rolland, paru en 1919. Je rappelle que Romain Rolland est né à Clamcy, dans la Nièvre, en 1866, et Romain Rolland est mort à Vézelay le 30 décembre 1944. On retrouve Jean Lacoste dans une poignée de minutes. Le temps pour nous de marquer une nouvelle virgule musicale. C'est Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi sur votre radio locale. We'll be right back.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
La suite de la conférence donnée par Jean Lacoste, germaniste et philosophe, conférence donnée au cinéma d'Avallon le 16 décembre dernier à l'occasion des commémorations qui ont entouré la parution du Colabrugnon de Romain Rolland, centenaire de la parution de ce roman gay, de celui qui obtint le prix Nobel de littérature en 1915. Romain Rolland, né à Clamecy en 1866, est disparu le 30 décembre 1944 dans sa maison de Vézelay. Tout de suite, Jean Lacoste pour la suite de cette conférence que nous vous proposons aujourd'hui dans son intégralité.
L'œuvre est peut-être plus littéraire que populaire. Et l'on ne voit pas très bien quel film, parce que c'est toujours ma question initiale, peut lui être associé. Peut-on trouver une indication dans les conceptions de Romain Rolland lui-même sur le cinéma? Il se trouve que à la fin de sa vie, dans les années 44, il a été 43-44, il a été saisi d'un projet d'un scénario de mise à l'écran de Colabrugnon à partir d'un scénario par un certain Jean-René Legrand, qui n'a pas laissé dans l'histoire du cinéma la marque qu'il aurait peut-être mérité. Et Romain Rolland écrit des lettres où il apporte sa contribution au scénario, ce qui est assez intéressant et assez original. Enfin, original, je ne suis pas sûr, mais qui certainement sont éclairants pour sa propre conception. Il suggère, par exemple, premier point, que d'utiliser les éléments pittoresques. Je cite: les admirables et très variées prises de vue des paysages, des villes, des campagnes, des sites bourguignons et nivernais. Ainsi, une succession rapide de tableaux de Clamecy et de ses coteaux, de sa vieille église, des rives de Lyonne et du Beuvron serait une excellente introduction. Elle créerait l'atmosphère qui se resserrerait autour de la bicoque et de l'atelier de Colabrugnon, par un mouvement comme ça, à la Truffaut, oui. Quant à la petite guerre entre Vézelay et Clamecy, il suggère d'utiliser, je cite, l'admirable décor de Vézelay pour montrer la colonne des envahisseurs qui s'organisent et puis qui descend de sa montagne, c'est-à-dire de Vézelay, et qui chemine à travers les forêts et les prairies. Là, c'est du meilleur cinéma, dit-il. On dirait, vous savez, les chefs-d'œuvre du cinéma soviétique des années 30. D'une manière générale, Romain Rolland conteste la couleur d'idéalisme mélancolique du scénario. Autant que possible, écrit-il à son éditeur, il faut accentuer et en colla ses amis tout ce qui fait antidote à la mélancolie. Le rire dru, gaillard, viril, qui fait nique à l'infortune et qui houspille en soi les humeurs chagrines. Toujours cette revendication de la gaieté, cette nécessité de l'œuvre, dit-il, de réveiller le goût de la vie, car la vie est bonne malgré tout. Et il persiste dans une lettre à Esménard, son éditeur, du 20 septembre 1944, c'est-à-dire en fait 2 mois avant son décès. Il faut un colas haut en couleur, luisant de malice et de liesse. La première condition d'un colas, c'est la belle humeur. Mais quoi conclure de ces préconisations, disons, de bon sens? Le film qu'il décrit ainsi idéalement, ça serait toujours Mon oncle Benjamin, pas de chance, avec sa verve, sa bonne humeur, ses chevauchées dans les campagnes, les vues de la région, Avallon, Clamecy, Vézelay, enfin, tout ce qu'on revoit avec plaisir quand on revoit le film. Nous sommes toujours au même stade. Quel film choisir, avec quelles affinités? Il existe, Martine Liégeois l'a rappelé, un opéra russe de Kavalevski, le maître de Clamecy, de 1937, et dont nous avons fait jouer le dimanche 13 octobre récemment une version de concert, donc voilà l'ensemble de l'équipe, dans la collégiale de Clamecy avec un grand succès et en présence, une première en présence de la fille du compositeur Kavalevski. Et voici ce que Romain Rolland lui écrit à propos de l'adaptation très, très originale du compositeur russe de Colabrugnon. Je voudrais seulement insister sur le trait le plus essentiel de Cola, la gaieté, à travers tout et malgré tout. C'est le sujet même de l'œuvre, sa raison d'être, un optimiste de nature que rien ne jamais ne peut abattre ou assombrir. Un vrai Français de vieille souche qui a toutes les misères du monde, pleuvant sur lui, oppose son rire, son rire vaillant et railleur, pour ce que, comme dit Rabelais, le rire est le propre de l'homme. Et c'est peut-être de cette vertu du rire vaillant que notre temps a le plus besoin. Je le lui ai servi dans mon cola comme une bouteille de vieux Bourgogne. À vrai dire, cette gaieté me paraît plus ambiguë qu'il n'y paraît. On voit bien que la succession des épisodes heureux est contrebalancée par toutes sortes de catastrophes qui viennent s'abattre comme la peste sur son existence. Cette gaieté me paraît plus sobre, me semble se détacher d'un arrière-plan assez sombre, comme un peu comme Nietzsche qui dit qu'il préfère la Carmen de Bizet ou telle opérette par rapport à Wagner. Il faut prendre cette affirmation de gaieté, me semble-t-il, avec un peu de distance. Faute d'indications plus nettes, comment trouver un film qui convainc pour cette soirée au Ciné-Club d'Avallon, point d'orgue de la manifestation inaugurée à Vézelay et poursuivie à Clamecy? Et un nom s'est imposé comme la bonne solution. Et d'abord parce qu'il existe une concordance des époques. Le Capitaine Fracasse, c'est-à-dire le roman de Théophile Gautier, et les différents films qu'il a inspirés, se déroulent à peu près à la même époque que Colabrognon, c'est-à-dire les premières années du règne de Louis XIII, là les régences de Marie de Médicis. Voici Louis XIII. Et la place des Vosges qui est certainement, avec ses briques et ses angles de pierre blanche, la plus caractéristique de l'art de cette époque. Je ne vais pas résumer l'histoire, le film que vous allez voir, simplement d'un mot, de deux lignes, dire qu'il s'agit d'un jeune noble, le baron de Sigognac, d'où les armoiries, avec Alta Petunt, il cherche à gagner les hauts lieux. Qui vit morose et ruiné dans son château, entre Dax et Mont-de-Marsan, dit Théophile Gautier, et l'amour pour l'ingénue Isabelle et l'aiguillon de la misère le conduisent à se joindre à une petite troupe de comédiens. Des aventures picaresques s'en suivent. Il est même amené à prendre au théâtre un rôle de capitaine Fracasse. Le livre de Gautier est inspiré à l'évidence du roman comique de Scarron. Comique ici, vous ne voulant pas dire drôle ou même gay, mais concernant le théâtre, n'est-ce pas ? Et c'est effectivement le récit des mes aventures burlesques d'une troupe de comédiens au Mans qui se caractérise par un réalisme assez rare à l'époque, qui fait entendre le rire du peuple, qu'on voit ici avec tous les personnages de la comédie italienne et française, avec l'image bien connue de Molière à gauche. Plusieurs adaptations au cinéma ont montré la consistance et la pertinence de ce thème du Capitaine Fracasse, chaque fois presque mythique en fait, qui est chaque fois renouvelé. Il y a un film, Jean-Piette, j'espère, enfin comme notre critique de film étant empêchée, je peux impiéter un peu sur le cinéma. Il existe un film muet de 1929 d'un certain Alberto Cavalcanti avec Pierre Blanchard dans le rôle du Capitaine Fracasse. Et puis le Capitaine Fracasse d'Abel Gance, 1942-43, dont on voit ici une scène caractéristique, sombre et théâtrale, dans l'esprit de l'époque, avec Fernand Gravet et une jeune vedette russo-italienne, Assia Noris. Et puis, sans éblouir le Capitaine Fracasse de Jean Marais dans les années 1960, qui est un pur film de cap et d'épée, un peu, qui a senti le temps qui passe, mais dans lequel Philippe Noiret joue le rôle d'Hérode et Louis de Funès celui de Scapin. Disons que c'est une œuvre dynamique, mais qui n'était pas digne de figurer ici dans le cadre de cette dernière manifestation, et puis le voyage du capitaine Fracas d'Ettore Scola ce soir, qui assume la théâtralité dans les décors en studio. Un hommage au théâtre ambulant, au chariot de Thespis, c'est-à-dire de ce poète de la Grèce antique qui a introduit la tragédie à Athènes avec une troupe d'acteurs ambulants. Alors, bien sûr, même si le cadre historique, c'est-à-dire les débuts de la régence de Marie Médicis, est le même dans Colabrugnon et puis dans le capitaine Fracas, dans ces différentes moutures, les différences entre les protagonistes sont évidentes. D'un côté, on a un homme en pleine maturité de 50 ans, de l'autre, un jeune baron. Vous avez d'un côté une maison modeste mais bourgeoise, bien en place, et de l'autre côté, un château en ruine entre Dax et Mont-de-Marsan. Vous avez un homme du peuple qui vit au sein de sa famille, tandis que vous avez un noble, un jeune noble solitaire qui se joint à une troupe. Vous avez des œuvres palpables avec les travaux du bois, et l'autre côté, l'illusion comique, l'apparence du théâtre. Vous avez des outils d'un côté et de l'autre, de l'escrime. Mais au-delà de ces oppositions un peu terme à terme, en miroir entre les deux personnages essentiels, c'est-à-dire Colabrugnon et le capitaine Fracas, ils incarnent quelque chose d'essentiel. Et c'est là que j'en viens, je crois, la clé de cette intervention, c'est qu'ils incarnent une certaine idée de la culture française au début du XVIIe siècle, une brève période où tente de s'imposer un goût de la liberté plus ardent que d'autres, certaines autres époques, et avec son corollaire naturel, la tolérance. Si on lit de nouveau la lettre à Kavaleski que j'ai mentionnée, voici ce que Romain Rolland écrit. J'ai choisi l'époque de Cola comme étant intermédiaire entre deux âges de la prose française, dont l'un, le magnifique XVIe siècle de Rabelais, est devenu un objet de musée, mais dont l'autre est encore vivant et parlé dans le peuple de sa province française. Traitez-le donc dans votre musique comme un vivant, non comme un revenant du temps passé. Cette période qui va de l'édit de Nantes jusqu'au pouvoir, à la prise de pouvoir de Richelieu, c'est quelques 10-20 ans du début du XVIIe siècle, sont marquées par représentent une sorte d'intermède, de fantaisie, de liberté, de désordre, de vie, un moment baroque qui a été réhabilité par Théophile Gautier, notamment dans des recueils d'essais qui s'appellent les Grotesques, et qui ont été aussi salués à la même époque par Gérard de Nerval, Hugo, Dumas, naturellement, tout le mouvement romantique. Avec le capitaine Fracas de 1844 et le Colabrugnon de 1919, si on peut les rapprocher sans arbitraire, on a affaire à deux tentatives, peut-être en apparence un peu artificielles, mais en fait, au fond, très enracinées dans l'intime de chaque auteur, dans les souvenirs qui sont cachés à chaque page de ces livres, pour retrouver l'esprit de la littérature française d'avant Malherbe, d'avant Louis XIV, d'avant l'Académie française. Une période de transition, et c'est pour ça qu'ils peuvent nous intéresser, parce que je crois que nous vivons nous aussi une période de transition, entre d'un côté les guerres de religion et de l'autre l'absolutisme de Louis XIV, entre l'extrême liberté et ses excès, et l'extrême mainmise sur la société avec ses excès. Voici un rapprochement qui me semble justifier cette démarche que j'esquisse. Ce que dit Romain Rolland, tout d'abord, à propos du choix de sa chronologie. L'époque choisie est, comme il est indiqué, c'est une note manuscrite du début du travail manuscrit sur Colabrugnon. L'époque choisie est, comme il est indiqué, des premières années du XVIIe siècle, peu après la mort d'Henri IV, au temps de Concini, le favori de Marie Médicis, assassiné en 1617. Elle a été choisie surtout à cause de la langue, qui avait encore toute la saveur de l'époque rabelaisienne, mais déjà filtrée par le classicisme. Et que lit-on dans les grotesques de Théophile Gautier? Et je vais lire ce texte, une dizaine de lignes, parce qu'ils expliquent pourquoi on peut choisir le capitaine Fracas pour, disons, illustrer ou manifester des affinités avec Colabrognon. La belle et riche langue du XVIe siècle, pour quelques mauvaises herbes qu'on en a retirées, nous paraît avoir perdu beaucoup d'épis pleins de grains d'or. Nous sommes de ceux qui regrettent que Malherbe soit venu. Un grand et admirable poète, Mathurin Régnier, a exprimé la même idée en vers d'une énergie et d'une vigueur surprenantes. Théophile Gautier continue en disant ceci. L'influence de Louis XIV n'a pas toujours été heureuse sur la littérature et les arts de son temps. La perruque du grand roi y domine trop. La majesté, l'étiquette, la convention ont quelque peu chassé la nature. Les arbres du parc de Versailles portent des boucles et des frisures comme les courtisans. Les poèmes sont tracés au cordeau comme les allées. Partout, la régularité froide est substituée au charmant désordre de la vie. La volonté d'un seul homme remplace le caprice individuel. Toute une génération, celle née vers 1600, un peu avant, après ou avant, est un mélange de liberté et d'artifice, de violence et de délicatesse. C'est l'époque des bretteurs et des précieuses, des matamores et des ingénues. On se bat en duel et on lit l'astré d'Honoré d'Urfé. C'est une France baroque, oublié ou refoulé par le classicisme, par Boileau, par Racine, etc. Une France des grotesques, selon l'acception de Théophile Gautier dans les essais de 1830. Citons très brièvement, dans un rapide panorama, quelques-uns de ces grotesques qui sont en fait les contemporains de Colas. Vous avez Scarron qui a décrit la vie du peuple, comme je l'ai dit dans son roman comique. Vous avez Théophile de Viau, véritable grand poète, oublié, écrit Théophile Gautier, protestant, libertin, hostile à la religion, condamné à être brûlé et qui connaît l'exil et la prison. Vous avez Saint-Amand, qui a beaucoup voyagé en Amérique, en Inde, en Afrique, et qui a fréquenté à la même manière les cabarets et les salons, qui demande à boire plus haut que Pantagruel venant au monde, mais qui connaît la mélancolie avec la solitude, un poème où il est question d'un vieux château ruiné. Citons également le célèbre Cyrano de Bergerac, l'historique, soldat et libertin à la riche imagination, ça c'est vrai, avec ses voyages extraordinaires. Et je crois que dans l'esprit de Romain Rolland, nous pourrions associer à ces grotesques de Théophile Gautier, à cette France baroque, un certain François Savary de Brève, cet homme illustre, longtemps oublié de son propre pays, seigneur de Brève, Brève étant, je vous le rappelle si vous ne le savez pas, la terre des ancêtres paternels de Rolland et l'endroit où il est lui-même enterré. Ce François Savary de Brève, né en 1560, donc un petit peu avant la génération que je mentionnais, a mené une vie d'aventure bien caractéristique de cette époque, de cette génération d'esprits hardis et lettrés, libres et fiers, comme le baron de Sigognac. Savary est mort en 1638 après avoir servi deux rois, comme ambassadeur de France, d'abord à Constantinople, où il arrive en 1584, puis à Rome, et ensuite comme gouverneur un peu bougon chargé de l'éducation du très faible Gaston d'Orléans. Rappelons notamment, raison pour laquelle sa mémoire a été conservée, qu'il a rapporté de ses séjours en Orient des caractères en plomb arabe, hébreu, syriaque, qui sont conservés à l'imprimerie nationale et qui ont permis d'imprimer des ouvrages dans ces langues. Il a donné de ses voyages périlleux dans l'Empire d'Ottoman et en Barbarie, entre guillemets, un récit pittoresque. Et, pièce essentielle de ma démonstration, dans l'article que Romain Rolland lui consacre, qu'il consacre à ce François Savary, dans le bulletin de la Société scientifique et artistique de Clamecy de 1935, il se laisse aller à imaginer une rencontre entre son Colabrognon de 1616 et ce personnage historique. Ne sont-ils pas presque contemporains ? Je passe rapidement sur ce que je voulais. Voilà. Et c'est François de Brève, Savary de Brève, qui a fait construire dans ce village, berceau de sa famille, un château sous la direction probablement de l'architecte Salomon de Brosse. Le château de Savary de Brève étant aujourd'hui dans un état plus moins brillant, évidemment. Mais nous voilà sortis de l'embarras initial. Le capitaine Fracasse relève de la même culture baroque et, entre guillemets, grotesque que Colabrugnon et que ces personnages poètes, voyageurs et rêveurs que je viens de citer. Ils incarnent une culture de la vie et de la gaieté, entre guillemets, pour souligner ce qu'il peut y avoir d'ombre dans cette gaieté-là, qui accepte ce qu'on appelle le charmant désordre de la vie, mais qui, on l'a vu dans l'histoire de Colabrugnon, comporte des aspects beaucoup plus brutaux.
Un nouveau temps de pause musicale à bord de Wagon Livre avant de retrouver la suite de la conférence de Jean Lacoste consacrée au centenaire de la parution de Colabrugnon, roman de Romain Rolland. Merci d'être avec nous. C'est Wagon Livre, dernier numéro de l'année 2019 et nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion.
If I lay down my love to come to your defense, would you worry for me with a pain in your chest? Could I rely on your faith to be strong, to pick me back up and to push me along? Tell me
you'll be there in my hour of need. You won't turn me away. Help me out of the life I lead. Remember the promise you made. Remember the promise you made.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
C'est une conférence de Jean Lacoste que nous vous proposons aujourd'hui à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire sur Radion, une conférence que nous avons enregistrée au cinéma d'Avallon le 16 décembre 2019 et qui avait pour thème le centenaire de la parution de Colabrugnon, roman de Romain Rolland. Le moment est venu d'ailleurs d'en entendre la conclusion par Jean Lacoste. Merci d'être avec nous. Je rappelle d'ailleurs concernant Jean Lacoste qu'il est germaniste agrégé de philosophie et essayiste. C'est lui d'ailleurs qui a établi l'édition du journal de Vézelay de Romain Rolland 1938-1944, paru aux éditions Bartilla en 2012 et qui est bien évidemment toujours disponible en librairie. Jean Lacoste.
Je proposerai à ce stade deux conclusions. Deux conclusions, en rappelant que Stefan Zweig, dans un livre qu'il a consacré à Romain Rolland, peu de temps après la publication de Cola en 1919, parle à propos de ce roman d'un intermezzo, et ça nous l'avions vu, c'est vraiment l'idée d'une transition en forme de scherzo, c'est-à-dire de plaisanterie. Mais là encore, la plaisanterie doit se mettre entre guillemets, parce qu'elle se caractérise par, dit-on, un mouvement vif, rapide, gai, si on veut, mais c'est une gaieté qui peut devenir inquiétante, voire macabre. Rien n'est réglé, tout est en mouvement, en transition. Vers quelle issue? Il peut y avoir une gaieté de carnaval, de contestation collective, comme dans Colabrugnon. Contestation en apparence rieuse, gaie, mais en réalité profonde de l'ordre social, subvertie par le rire douloureux. Et puis il y a aussi une sorte d'individualisme radical qui risque toujours de se traduire par un repli sur soi. Là, c'est le roi Bois. Et nous avons là deux options, finalement, entre d'un côté le carnaval que illustre très bien le peintre Stanislav Sobolevski, qui a exposé justement à Clamecy à l'occasion de nos manifestations, et qui a traduit ici un épisode de carnaval. Je pense que c'est la fin du siège. Il est dommage que vous ne puissiez peut-être pas voir assez clairement toute cette foule. La population de Clamecy dans Collabrognon, pauvres et riches ensemble, résiste un temps au duc de Nevers, comme les comédiennes du capitaine Fracas résistent un temps aux avances des nobles. Finalement, les structures sociales demeurent intactes, malgré la guerre civile, malgré les bouffonneries, malgré l'individualisme. Le capitaine, dans le roman de Gautier, redevient baron, du moins dans le roman, et l'artisan Colas reste un homme du peuple. Mais ils ont en commun, conclusion ambiguë, de garder un même sentiment fraternel et libre de la vie, aussi précieux que la statuette de Marie-Madeleine, la seule sauvée de la destruction, ou bien le théâtre ambulant. Je vous remercie.
C'était Jean Lacoste pour la conférence enregistrée à Avallon le 16 décembre dernier, consacrée au centenaire de la parution de Collabrognon, roman de Romain Rolland, que l'on vous encourage d'ailleurs à redécouvrir et à lire ou à relire. Le roman est disponible aux éditions Albin Michel et on le trouve très facilement. Merci en tout cas d'avoir été une fois de plus fidèle à ce numéro de Wagon Livre. C'était d'ailleurs le dernier numéro de l'année 2019. Je vous souhaite bien sûr un excellent réveillon de la Saint-Sylvestre, gourmand à souhait, convivial, chaleureux, entre amis ou en famille. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour ce premier samedi de janvier 2020 pour un nouveau numéro de votre émission littéraire. Si vous avez manqué le début de la diffusion de cette conférence de Jean Lacoste, vous savez que vous pouvez la retrouver dans son intégralité via Internet sur le site d'archives de Wagon Livre www.yannickpetit.fr. Encore merci de votre écoute et de votre fidélité. Excellent congé fin de semaine et rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau numéro de Wagon Livre qui continue toujours sur votre radio locale, sur Radion. Au revoir à toutes et à tous et merci encore.